Shalom, et merci. J'ai choisi un sujet qui, a priori, est un sujet abstrait. L'œuvre du commencement, ça fait partie des parties secrètes de la Torah. La Mishnah nous dit qu'on ne parle pas de l'œuvre du commencement en public. Donc c'est un sujet ésotérique, et à la limite, on pourrait dire pour initier. Et pourtant, dans l'interprétation qu'en donnait Manitou, il y a des conséquences au niveau de l'analyse historique, qui ont d'ailleurs été évoquées, entre autres par Olivier Cohen, et au niveau même du comportement individuel de chacun d'entre nous. Donc je pense que ça a quand même son importance. Je tiens à rappeler simplement que l'œuvre du commencement, étant donné qu'elle est écrite dans la Torah écrite, alors ça demande certaines précautions quand on étudie un texte de la Torah écrite. C'est dans le premier chapitre de la Genèse, dans Bereshit, que ça se trouve. Et déjà, Rashi nous dit, à propos du mot Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz, au début, l'Éternel créa le ciel et la terre. Alors déjà, Rashi nous fait remarquer qu'il y a un problème grammatical pratiquement insurmontable. Comment est-ce qu'on peut dire Bereshit? Bereshit veut dire en hébreu, au commencement de. C'est-à-dire, si on veut dire au commencement, on devrait dire Bereshit, ou bien Bahatrala. Mais si on dit Bereshit, ça veut dire au commencement de. Or, il n'est pas écrit au commencement de quoi. Donc, Bereshit, Bara Elohim, Rashi nous dit, Enamikra, Zeomer, Eladorcheni. Ce verset demande donc à être interprété de manière métaphorique. On ne peut pas comprendre le mot Reshit comme signifiant commencement, mais comme signifiant une valeur. Il y a une valeur qui s'appelle Reshit, qui est la raison de la création du monde. Bereshit, Bahavu Reshit. C'est pour Reshit que le monde a été créé. Ah bon? Et ça veut donc dire que le premier verset de la Torah ne vient pas nous apprendre que le monde a été créé. Mais cela est supposé être connu par le lecteur. Le lecteur étant un hébreu, il sait que le monde a été créé. Et donc, on ne vient pas l'informer que le monde a été créé. C'est pas ça qu'il vient apprendre dans le verset de la Torah. Il vient apprendre, mais pourquoi est-ce qu'il a été créé? Pour quelle raison? Dans quel but? Et la réponse, eh bien, c'est pour un Reshit. Alors là, ça nous ramène également à un problème. C'est quoi ce Reshit pour lequel le monde a été créé? Mais en tout cas, ça veut donc dire que la Torah ne vient pas nous enseigner des vérités physiques, des réalités disons, de fait, ça c'est le problème des scientifiques. Les scientifiques vont se demander comment est-ce que le monde a été créé, de quelle manière, quand est-ce que ça s'est produit, le Big Bang, l'évolution, tout le reste. Ça ne concerne pas la Torah. La Torah, on pourrait dire, met ça de côté. Et donc, toutes les tentatives éventuelles de faire concilier la Torah ou de faire de concilier la Torah avec la science ou d'opposer la Torah et la science, en fait, c'est mélanger deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et donc, on ne peut pas parler d'accord de la Torah avec la science ou de contradiction de la Torah avec la science. Ceci est un point très important. Mais en tout cas, donc, pour revenir à Bereshit, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, et donc Rashi nous dit Enamikra azeh omer eladorcheni. Ça veut dire ce verset ne demande qu'à être interprété. Et Rashi rajoute Kemo shedarshu chazal, comme l'ont interprété nos sages. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, nos sages? Eh bien, ils ont dit que c'est pour la Torah qui est appelée Reshit et pour Israël qui sont appelés Reshit que le monde a été créé. D'où problème. Deux interprétations pour le même mot, ça devient déjà problématique. Mais en tout cas, nous savons que c'est pour la Torah et pour Israël que le monde a été créé. Voilà ce que dit Rashi. Manitou interprétait ça à la suite du Rav Rotenberg de Paris. Il disait qu'il faut mettre les virgules dans un autre ordre dans la phrase. Il ne faut pas dire « ce verset demande à être interprété, point », comme on dit nos sages, deux points, pour Israël, pour la Torah qui est appelée « Reshit », virgule, et pour Israël qui est appelée « Reshit », point. Il faut lire ça comme ça. « Enamikra azeh omer ela dorsheni kemo shedarshu chazal » Ce verset ne demande à être interprété qu'à la manière de nos sages. Et pourquoi est-ce qu'il faut interpréter le verset selon l'interprétation de nos sages? Parce que la Torah qui est appelée Reshit a été donnée pour Israël qui sont appelés Reshit. Donc c'est la lecture d'Israël qui va nous expliquer comment il faut lire ce verset. D'accord? Bon, c'est-à-dire c'est une interprétation de l'interprétation de l'interprétation de Rashi.
C'est là où je veux dire, c'est clair.
Ah oui, alors Manitou avait l'habitude de dire dans ce genre de choses, c'est clair. Et alors il continuait. N'est-ce pas? Bon. C'est quand les choses n'étaient pas claires que Manitou demandait si c'était clair. En tout cas, qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre? Si on se réfère, disons, aux traditions de l'Antiquité, de l'époque où la Torah a été donnée, tout le monde savait très bien que le monde avait commencé par quelque chose. Mais par quoi? Alors, je ne sais pas, vraiment pour un exemple tout bête, la mythologie grecque que vous connaissez bien, la mythologie grecque fait commencer, et en fait c'est vrai pour toutes les mythologies font commencer le monde par un dieu. Par exemple, chez les Grecs, c'est Zeus. Mais Zeus a un père, il s'appelle Cronos. Et le père de Zeus, Cronos, a lui aussi un père, Uranos et Gaïa, c'est-à-dire ciel et terre. Et l'ancêtre de Uranos et Gaïa, le père de Uranos et Gaïa à la fois, s'appelle Chaos, c'est-à-dire le chaos, ce n'est même pas un dieu. Donc tout commence par le chaos, c'est-à-dire le désordre. Et puis le monde, c'est l'organisation du chaos. Le chaos finalement s'organise et puis alors finalement on arrive à un monde organisé. Mais un grand principe que vous connaissez certainement, ce qu'on appelle la queue du slougi, vous chassez le naturel et revient au galop, toute chose a tendance à revenir à son point d'origine. Donc, si le monde a commencé par un chaos, par un désordre, même s'il est ordonné à un moment, il reviendra au désordre. C'est une vision pessimiste du monde. Et en fait, on veut dire que les Grecs et toutes les mythologies du monde ont commencé leur lecture de la Torah par le deuxième verset. « Ve'aret setatou vavou » la terre était en chaos. Et l'innovation de la Torah, le chidouche, c'est que avant le chaos, il y a un réchit, il y a un commencement, et que ce commencement veut dire qu'il y a un projet. S'il y a un projet, ça veut donc dire qu'il y a un aboutissement, et que le chaos n'est que secondaire. C'est-à-dire le fait qu'il y ait un désordre dans le monde, c'est quelque chose de regrettable peut-être, mais c'est en tout cas momentané. D'ailleurs, Manitou disait, comment est-ce que nous savons qu'il y a un monde à venir, qu'il y a un Olam Haba? C'est très simple, c'est écrit en toutes lettres dans la Torah. Bereshit, bara, Elohim, Dieu a créé le monde. Si Dieu a créé le monde, il ne peut pas tolérer que l'état du monde tel que nous le connaissons soit permanent. C'est absolument insupportable. Donc il faut bien que le monde se transforme et devienne quelque chose de bien. Donc il y a un Olam Haba, il y a un monde à venir. C'est ça que nous enseigne la Torah, c'est qu'au départ il y a une pensée, il y a un réchit, et que c'est un projet, si vous voulez, ce projet passe à travers le chaos, mais que finalement ce chaos va aboutir à un ordre. Ça se retrouve d'ailleurs dans le Midrash. Vous avez un Midrash qui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, n'est que la moitié d'un drash, et de même que le miracle n'est que la moitié d'un racle, et c'est que vous avez les quatre expressions qui décrivent le chaos: tohu, bohu, chosher, tehom, c'est-à-dire tohu et bohu, obscurité et abîme. Alors le Talmud, le Midrash nous dit tohu c'est Babylone, bohu c'est la Perse, chosher c'est la Grèce, et tehom l'abîme c'est Rome. Et donc ça veut dire que le désordre que nous voyons dans l'histoire, les empires qui détruisent le monde, qui essayent de le bâtir et le détruisent à la fois, eh bien finalement ça aboutit, c'est la dérivée du tohu vavohu originel, celui que les kabbalistes appellent Shvirat HaKelim, c'est-à-dire les vases brisés. Finalement ça aboutit, Vayomer Elohim Yehi Or, et Dieu dit que la lumière soit, c'est la lumière messianique. Donc on voit qu'il y a c'est des parallèles qui sont opérés entre les différents niveaux d'être de la création, le métaphysique, et puis après le cosmos, et après dans l'histoire, il y a toujours une brisure qui a un point de départ dans l'harmonie, une brisure, et après on revient à l'harmonie. Si on essaie de voir un peu de quoi a l'air le récit de la création du monde, ça a l'air un peu... D'abord, ça commence bien. D'accord ? Au début, Dieu a créé le ciel et la terre. On se dit, ah là là, ben, si c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, comme Dieu est un être parfait, eh bien, le ciel et la terre sont parfaits. Donc, le premier verset est un verset très optimiste. Et puis, vous passez au deuxième verset de la Torah, on voit que ça va très mal. Tohu, bohu, obscurité et abîme, et un souffle divin qui planait sur la face des eaux, c'est terrible, tout ça, ça veut dire qu'il y a eu un désordre terrible. Interprétation des kabbalistes, reprise par Manitou, ça veut dire qu'il y a eu un choc. Il y a eu une catastrophe originelle qui fait que le monde est tombé là où il est tombé, ce qui fait que notre monde à nous ne se fait pas sur une table rase, mais c'est un monde qui commence par le devoir de réparer une catastrophe antérieure. Et puis après, ça ressemble à l'histoire de quelqu'un qui rentre dans un endroit un peu obscur et dit « bon, faisons un peu de lumière, on allume pour voir ce qui se passe. » Oh, là, il y a de l'eau partout. Bon, alors on va déplacer, on va prendre un spongeador, comme on dit en hébreu, enfin, une serpillière, on va mettre un peu d'ordre, qui est quelque chose de sec. Et puis alors on se dit, oui, mais il manque ici des plantes. Alors on va mettre quelques pots de fleurs, et puis ça serait bien s'il y avait ici un aquarium et une cage à oiseaux. Et puis une fois qu'il y a tout ça, ben voilà, on peut inviter quelqu'un à venir s'y installer, on amène l'homme. C'est à peu près comme ça que se fait le récit de la création. C'est-à-dire que c'est comme si on voulait dire, au début ça a très bien marché, mais ça a été trop vite, ça s'est brisé, maintenant il faut réparer lentement. Une fois qu'on répare lentement, graduellement, ça s'appelle la patience, accepter de vivre dans la durée de l'histoire, alors ça peut réussir. C'est un peu ça le récit donc, de la création. Si vous voulez, donc, le récit de la création se résume en trois phases. La première phase, un monde parfait. Deuxième phase, un monde catastrophique. Troisième phase, un monde qui regresse. Qui se répare, qui progresse. Si vous voulez. Si vous essayez d'imaginer ça sur d'un point de vue graphique, ça vous donne une sorte de V. Vous savez, quand vous donnez une bonne réponse sur une interro, alors vous faites un petit V comme ça, tac. Alors, c'est-à-dire que la branche de gauche, c'est une chute. Ça arrive au plus bas, puis après ça remonte à l'infini. Ben, c'est un peu ça, le récit de la création du monde. Et si vous voulez, on peut appeler ça un mouvement de retour. Ce qui explique pourquoi nos sages ont dit que le retour, la Teshuvah, a précédé la création du monde. On peut dire que tout le mouvement de la création du monde, c'est un éloignement de l'origine et une nostalgie de l'origine. C'est ce qu'on appelle la Teshuvah. Je pense que c'est assez clair pour l'instant. C'est clair, n'est-ce pas, comme disait Manizou. Bon. Si vous avez des questions à ce moment-là, je pense que si quelque chose n'est pas clair, je vous invite à le dire tout de suite, parce que, étant donné que dans la suite ça va se compliquer, il n'y a aucune chance que la suite de mon discours vous explique ce que vous n'avez pas compris maintenant. Allez-y.
Mais, s'il vous plaît, j'ai à peu près compris, je crois, ce que vous avez dit, sauf le moment où vous déplacez les virgules dans Bereshit Bara Elohim.
Ah non, c'est impossible. Je ne peux pas. Non, l'histoire des virgules, non, prenez ça. Tout simplement. C'est une paraphrase de la paraphrase de Rachid, donc ça irait trop loin. D'accord. Mais l'essentiel, si vous avez compris les versets, c'est ça, c'est l'essentiel. Donc, je reviens au récit de la création. Une petite remarque, d'ailleurs, basée sur l'araméen. Le sens du mot création, bara, en hébreu, on dit en hébreu bara. Mais en araméen, bara veut dire extérieur. C'est extérieur. Oui. Oui, bara. D'ailleurs, si certains d'entre vous parlent l'arabe, vous savez que quand on dit bara, ça veut dire oust, dehors, n'est-ce pas? Bara. Et d'ailleurs, en français, vous avez également le terme de existe, ex-ist, c'est-à-dire dehors, être. C'est être mis en dehors, c'est ça que signifie le terme de bara. La création signifie être éjecté de l'infini. Et donc, ça crée une nostalgie. Dès que je suis dehors, je veux revenir. C'est-à-dire exactement le contraire du sens de ce mot en hébreu. Le mot bara en hébreu signifie plein. Plein. Ce qui est bari, ce qui est plein. Oui. Hein? Oui, c'est le contraire. Mais en tout cas, comme Manitou disait, l'araméen étant le subconscient de l'hébreu, alors ça explique certaines choses. Ça explique pourquoi il y a un mouvement de nostalgie de la teshuva chez les tzadikim. Ceux qui savent qu'ils sont créés ont une aspiration naturelle au retour vers l'infini. Ce qui n'est pas sans danger, ça peut entraîner le mysticisme. C'est-à-dire la mystique, c'est une aspiration au retour à l'origine, sans accepter la vie terrestre. C'est pour ça qu'il faut doubler ce mouvement d'un mouvement de teshuva sur la teshuva. Il faut faire teshuva d'avoir fait teshuva. C'est-à-dire quand on fait teshuva, on a la nostalgie de l'origine, mais il faut après faire teshuva d'avoir abandonné ce monde. C'est la raison pour laquelle, par exemple, l'aboutissement du jour de Kippour, qui est un jour où on devient quasiment angélique, l'aboutissement du jour de Kippour, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le repas après le jeûne. C'est-à-dire qu'on pourrait presque dire que le but du jeûne de Kippour, c'est le repas qui vient après le jeûne de Kippour. Non, mais je rigole pas, parce que vous savez, les gens mangent après Kippour, on se demande pourquoi. Alors certains disent c'est parce qu'on a faim, mais c'est pas vrai. Si vous avez fait Kippour, vous savez très bien qu'on n'a pas faim à la fin de Kippour. Et puis alors vous allez dire, oui, parce que le jeûne est fini. Oui, mais dans ce cas-là, prenez un biscuit et un jus de fruits, c'est fini. Tandis que là, on fait un repas de fête après Kippour. C'est donc, il y a quelque chose d'essentiel. On fait teshuva d'avoir fait teshuva. On revient vers le matériel. Non, c'est vrai. Donc, maintenant, je voudrais rentrer un peu plus dans le détail du récit de l'œuvre de la création. Puisque Rachid nous a expliqué que l'intention du texte n'était pas de nous apprendre l'ordre de la création. C'est-à-dire tout le récit de Bereshit n'est pas un récit physique, mais un récit métaphysique. Donc qu'est-ce qu'il vient nous dire? Alors tout d'abord, il vient nous expliquer, il donne une carte. Une carte pour des repères, pour se retrouver un peu dans notre monde. Je ne sais pas si vous vous êtes promené un jour dans le monde, mais vous avez vu qu'il y a des tas de choses. Dans le monde, il y a, par exemple, un ver à pied. Et puis il y a des hommes. Puis vous avez le soleil et la lune, et vous avez un tapis, et vous avez, je sais pas, il y a des tas de choses, il y a un radis et une carotte. Bon, alors, c'est extrêmement troublant tout ça, c'est énormément de choses, de tant de catégories de choses, on se demande, mais comment s'y retrouver? Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, etc. Et la Torah nous donne des repères dans le récit de Bereshit. Tout d'abord, elle nous parle d'êtres qui sont permanents. La Torah emploie un verbe très important, le verbe yehi. Yehi qui vient de la racine hayo, c'est-à-dire être. Quelque chose dont la Torah dit yehi, c'est quelque chose qui existe en permanence. Alors, si vous faites la carte, ben, regardez la lumière, par exemple, yehi, or, que la lumière soit. Et donc la lumière est permanente, il y a toujours de la lumière. Et puis vous cherchez le firmament, vous trouvez ça aussi, Yehi Rakia, qu'il y ait un firmament, et là-bas le terme employé c'est Yehi. Ça veut donc dire qu'il y a en permanence de la lumière, en permanence il y a un firmament. Et puis après on passe aux plantes, le mot Yehi n'apparaît pas. Les plantes, elles, disparaissent. Vous plantez un arbre, mais après 300 ans, il n'est plus vivant. C'est-à-dire, les plantes sont éphémères. C'est-à-dire, le géographe l'a dit de manière très claire au Petit Prince, quand il a appris que sa fleur était éphémère, ce qui a été un drame pour lui. Et en tout cas, la Torah est donc très claire, les plantes, d'ailleurs les animaux et les hommes. La Torah ne dit pas le terme de « yehi » pour cela. Ça voudrait donc dire que les êtres physiques, la lumière et le firmament, et les luminaires sont permanents, puisque la Torah emploie pour ces trois choses-là le terme de Yehi, tandis que tout ce qui est biologique, végétal, animal ou humain, n'est pas permanent. D'accord ? Donc c'est très important de savoir ce qui est permanent, ou pas. Bon, on pourrait s'arrêter là, mais en vérité c'est beaucoup plus compliqué. Parce que la Torah nous parle d'un deuxième niveau d'existence que la Torah appelle Vayehi. Et il fut. Ce qui suppose déjà que du point de vue de la Torah, il y a deux modes d'existence. Ce qui veut dire donc qu'il y a un monde qu'on appelle notre monde, à Olam Hazé, et un autre qu'on appelle Olam Haba, puisque la Torah dit Yehi et Vayehi. Et alors de qui la Torah dit-elle Vayehi? On cherche. Vayomer Elohim Yehi Or, Dieu dit que la lumière soit, Vayehi Or, et la lumière fut. Donc vous voyez que la lumière est permanente dans le monde à venir également. C'est-à-dire de même qu'il y a une permanence de lumière dans notre monde, il y a une permanence de lumière dans le monde à venir. C'est très joli ça. Et puis après on cherche pour le reste. Il n'y a pas écrit Yehi, ni pour le ciel, ni pour les luminaires, ni pour les animaux. Mais pour l'homme, il est dit Vayehi à Adam, et l'homme fut, le Nefesh Chaya. Ce qui veut dire que dans le monde à venir, il y a deux êtres permanents qui sont la lumière et l'homme. Donc, vous avez déjà une carte très importante. Nous savons qu'est-ce qui est permanent dans notre monde, qu'est-ce qui est permanent dans le monde à venir, ce qui correspond à l'enseignement de Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, qui disait que l'homme a été créé non pas pour son état d'être dans ce monde, mais pour son état d'être dans le monde à venir. Donc, c'est une première place très importante de comprendre de quoi a l'air la création. Cet enseignement, Manitou le tirait directement de la lecture de Rabbi Avraham Barria de Barcelone, au XIIe siècle, dont Manitou relevait beaucoup de ses enseignements. Il avait appris beaucoup de choses de ce maître qui était un des précurseurs des kabbalistes de Provence. Ça, c'est le premier point. Maintenant, je voudrais rentrer un peu plus dans la profondeur des choses. Ça, c'était simplement pour vous donner un avant-goût. Si vous regardez ce qui est écrit dans le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, lors du premier jour, la Torah nous parle de la lumière. Le deuxième jour, elle nous parle du ciel et de l'océan. Et le troisième jour, de la terre ferme et des plantes. Ce qu'il y a de commun à ces êtres, c'est que ce sont des êtres statiques. La lumière est statique, le firmament et l'océan, c'est statique, la terre ferme et les plantes, c'est statique. Et puis après, vous passez au quatrième jour. Et au quatrième jour, qu'est-ce que vous trouvez? Les luminaires. Les luminaires, c'est quoi? Eh bien, c'est de la lumière en mouvement. Et après le cinquième jour, vous voyez des oiseaux et des poissons. C'est quoi des oiseaux et des poissons? Eh bien, c'est du ciel et de la mer vivantes. C'est vrai, c'est du ciel vivant, un oiseau. Oui, c'est du firmament en mouvement. Et les poissons, ben, c'est de l'océan en mouvement. Et puis passez au sixième jour et vous trouvez des plantes en mouvement. C'est quoi ? Ben, les animaux terrestres. C'est quoi un chat ? Un chat, c'est une laitue qui bouge. Ben oui, c'est quelque chose qui grandit, qui se développe, qui se reproduit, mais qui en plus est en mouvement. Il va chercher sa nourriture en dehors du lieu où il est né. Et de la terre en mouvement, c'est quoi ? Ben c'est l'homme. Donc en fait, si vous avez bien compris, il n'y a pas de différence entre ce qui a été créé pendant les trois premiers jours et ce qui a été créé dans les trois derniers jours. C'est exactement la même chose, sauf une chose. Le mouvement. La vie. Et ça veut donc dire qu'il y a deux manières de concevoir le monde. Il y a une manière de concevoir le monde comme étant fixe, c'est le monde des trois premiers jours, et vous avez un monde dynamique, en mouvement, c'est le monde des trois derniers jours. Ce qui vous explique pourquoi il y a deux grandes aires de civilisation dans le monde, l'ère occidentale et l'ère orientale. L'intuition fondamentale de l'Orient, c'est la fixité. Et l'intuition fondamentale de l'Occident, c'est le progrès, le mouvement. Et donc on voit ici que ça se retrouve déjà dans les origines de la création, dans les trois premiers jours et les trois derniers jours. Mais il y a aussi une autre différence. Qu'est-ce qui se passe à la fin du troisième jour ? Ben, je vais vous le dire, il ne se passe rien. Qu'est-ce qui se passe à la fin du sixième jour ? Ben, il y a le Shabbat. C'est-à-dire que dans un monde en mouvement, il y a un but vers lequel on peut tendre, tandis que dans un monde statique, il n'y a pas de but. Donc, après les trois derniers jours, vous avez un Shabbat. Après les trois premiers jours, pas de Shabbat. C'est joli, non ? Oui, mais ça pose un problème. Parce que le septième jour, le Shabbat, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on ne fait rien. On se repose. Donc, on fait ce qu'on a fait pendant les trois premiers jours. On revient au statique. C'est comme l'histoire du pêcheur qui pêche avec la canne à pêche. Un homme charitable lui dit « Tu devrais te servir d'un panier. » Elle dit « Pourquoi faire un panier ?»« Ben, c'est très simple, comme ça tu auras plus de poissons. »« Ah bon, mais qu'est-ce que je ferais si j'ai plus de poissons ?»« Ben, tu auras de l'argent, et avec cet argent tu pourras t'acheter une petite barque à moteur et aller en haute mer. » Oui, qu'est-ce que je vais faire en hauteur ? Ben, tu vas jeter un filet et tu auras énormément de poissons. Ah oui, alors qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Ben, tu pourras acheter de grands navires, amener beaucoup de poissons et tu deviendras très riche. Ah bon ? Et qu'est-ce que je ferai quand je serai très riche ? Eh bien, tu pourras t'asseoir tranquillement au bord de l'eau et pêcher à la canne à pêche. Mais c'est ce que je fais déjà. Mais vous trouvez ça drôle, mais en fait, c'est pas drôle du tout. Parce que... Non, c'est pas drôle du tout. Pour une raison très simple. C'est que celui qui n'a jamais été riche pour pouvoir s'installer tranquillement à faire de la canne à pêche, c'est un paresseux. Tandis que le riche qui se repose, eh bien, il a mérité. Donc, bien que le repos du Shabbat a l'air de ressembler aux trois premiers jours, mais c'est pas du tout la même chose. C'est le repos après le mérite. Et ça, on a parlé, c'est Yitzhak. Il mérite son être. Et donc, en fait, le Shabbat appartient à une troisième sorte de civilisation qui est celle d'Israël. Israël fait à la fois ce que fait l'Occident et l'Orient en même temps. C'est pour ça que c'est le Shabbat qui est son jour. C'est le jour de, c'est le jour de la synthèse. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça, peut-être dans le prochain volet de cette étude de ce soir, nous allons parler de ce qu'Israël peut proposer aux nations. Bien, ça viendra tout à l'heure. Et donc vous avez ici une finalité qui est celle du Shabbat, le septième jour, et donc ça nous donne déjà un certain plan intéressant de la création. Mais là nous allons rentrer dans les profondeurs des choses, parce que ce que je vous ai dit c'était une deuxième introduction pour passer à l'essentiel du sujet. L'essentiel du sujet c'est que la création est un raté perpétuel. Effectivement vous voyez qu'à chaque fois que quelque chose doit être créé, quand la Torah nous raconte la manière dont c'est réalisé, ben, ça ne marche pas. Ne serait-ce que par exemple pour le premier jour, Vayomer Elohim Yehor, Vayehor. Dieu a dit que la lumière soit, et après la lumière fut. Et les Chachamim nous disent Vayehi, ça veut dire que quelque chose a cloché là-bas. Vayehi. Vayehi, ce sont des lamentations. Ou bien par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure, Bereshit bara Elohim, au début Dieu a créé le ciel et la terre, et puis après c'est cassé. Et bon, l'exemple bien connu, Rashi le ramène, c'est qu'au début Dieu a dit que les arbres aient le goût des fruits, et finalement l'arbre n'a pas le goût du fruit. Ou bien que le soleil et la lune aient la même taille, et finalement le soleil et la lune n'ont pas la même taille. Donc on voit qu'en permanence, la Torah nous raconte l'échec du projet. Pourquoi ? Pourquoi créer un monde avec un projet et puis après un échec ? Eh bien, l'échec est nécessaire pour permettre de réparer, pour donner le mérite à la créature. La créature va mériter son être, et donc l'échec est bienvenu. Grâce à l'échec, on peut revenir. Alors pourquoi avoir fait un projet ? Ben pour qu'il y ait un idéal, pour quelque chose vers lequel on tend. Donc on pourrait dire que les échecs dont parle la Torah, ce sont des échecs programmés. C'est-à-dire que si je programme de faire un échec, si j'ai fait un échec, ça a été une réussite. Tandis que si j'ai réussi, c'était un échec. Je pense que là, j'étais très clair. Oui. Comment ? Oui, c'est l'échec. Non, vous devez comprendre que j'ai des difficultés à m'exprimer en français, étant donné que ma langue naturelle fait des problèmes. Bon. Je reviens à notre sujet. Qu'est-ce qu'il en est de la création de l'homme ? Puisque nous sommes des hommes, ça nous intéresse de savoir en quoi est-ce que notre création a été un échec. Et vous regardez dans la Torah, au chapitre 1, au verset 24, la Torah nous dit la chose suivante. Vayomer Elohim totse haaretz nefesh chaya. Elohim dit que la terre suscite nefesh chaya, une âme vivante. Behema, des animaux. Remes, des reptiles. Vechaito haaretz, des bêtes. Vayichen, il fut ainsi. Et il fut ainsi, c'est-à-dire que ça n'a pas marché. Et ainsi, le mot « ken », selon les Chachamim, ça veut dire quelque chose qui est « comme ». Ben, « comme », ce n'est pas la même chose. C'est de l'ersatz. Et donc, dans la création du monde vivant, il est question qu'il y ait quatre sortes d'êtres qui soient créés. Je reprends. « Nefesh Chaya, Behema, Remetz, Haito Eretz ». Et dans la réalisation, on voit qu'il y a un échec. « Vayas Elohim et » et « Elohim fi »« Chaya ta'aretz lemina » c'est-à-dire « les bêtes de la terre » Veta behema limina et les animaux selon leurs espèces, vet remesa adama limino et les reptiles de la terre selon leurs espèces. Il manque quelque chose. S'il n'y a que trois choses qui ont été créées, c'est quelque chose qui n'a pas été créé. C'est le nefesh chaya, l'âme vivante. C'est quoi l'âme vivante ? Eh bien, l'âme vivante, c'est l'homme. Puisqu'il est dit vaïe adam et nefesh chaya, ça veut dire que le monde naturel n'est pas capable de susciter tout ce qui fait l'homme. C'est-à-dire, on peut admettre que la nature donne naissance à tous les animaux, et puis quand on arrive à l'homme, il y a quelque chose qui échoue. Vayar Elohim Kitov, et Dieu se dit que c'était quand même bien. Mais pourquoi ne pas avoir dit tout simplement Adam ? Pourquoi avoir employé une expression métaphorique, plutôt poétique, Nefesh Chaya ? Parce qu'il y a un élément dans l'homme qui, lui, peut naître de la nature. Il y a un élément de l'être humain qui ne peut pas venir de la nature, c'est ce qu'on appelle le Nefesh Chaya. Le Nefesh Chaya, c'est l'identité morale de l'homme. Ce qui est libre, c'est ce qui lui permet de choisir entre le bien et le mal. Et quand il faut choisir entre le bien et le mal, il faut être évacué, être en dehors du déterminisme de la nature. Donc la nature ne peut pas produire quelque chose qui est plus forte qu'elle-même. Donc si vous voulez, il y a dans l'être humain un élément qui lui vient de la nature, et ça c'est créé par la nature, et puis il y a un élément qui n'est pas expliqué par l'évolution darwinienne, c'est l'élément de liberté qui fait de l'homme un être moral. Et donc la Torah nous le dit très clairement. Jusqu'à l'être humain en tant qu'être de nature, ça peut être créé par la nature, mais il y a un élément qui lui vient d'au-delà de la nature. Si c'est vrai ce que je vous dis, et je vous assure que c'est vrai, il y a donc dans la nature, l'homme, avant d'avoir reçu l'identité morale. Ça s'appelle comment ça ? Un homme qui n'a pas encore d'identité morale. Eh bien, ça porte un nom. La Torah appelle ça Nahash. Oui, Nahash, puisqu'il est dit en toutes lettres. Non, vous traduisez ça par serpent, parce que vous le voulez bien, mais dans la Torah, il y a écrit que le Nahash était le plus intelligent des animaux. Arum mikol chayat asadeh. Or, l'animal le plus intelligent que nous connaissons, c'est l'homme. Donc, le mot Nahash désigne l'homme. Mais l'homme, doué d'intelligence naturelle, avant qu'il n'ait reçu le Nefesh Chaya. Et donc tout le dialogue que vous avez entre le Nahash et celle qu'on appelle Isha, et celui qu'on appelle Ish, En fait, c'est un dialogue intérieur dans l'homme qui est tiraillé entre sa dimension d'être naturel, intelligence naturelle, et son être en tant qu'identité morale. C'est ça dont il est question. Et donc, si ça n'a pas marché, le Nefesh Chaya, il faut en tirer les conséquences. Et vous avez juste après le verset Kafé qui nous parle de l'échec de la création de l'homme, vous avez le verset 26, verset Kavav, dans lequel Dieu dit « Vayomer Elohim, na'aseh Adam » et Dieu dit « Faisons l'homme ». C'est-à-dire, si ça n'a pas marché avec la terre toute seule, alors nous allons faire ensemble, moi et la terre, nous allons faire l'homme. C'est-à-dire que chacun va donner un peu d'effort, Dieu va donner le Nefesh Chaya, la terre va donner le Nachash, ensemble ça fera l'homme. Vous comprenez que la condition humaine est terrible. C'est-à-dire, alors que dans tous les êtres, les êtres sont déterminés par un seul élément de la création, par une seule valeur, chez l'homme, il y a deux éléments qui vont se tirailler l'un contre l'autre. On peut se demander si ça peut réussir. En tout cas, c'est ça le projet. Le projet, c'est de faire réussir ces deux dimensions. Et là, vous avez... j'espère que c'est clair jusqu'à présent, parce qu'après ça va encore se compliquer. Mais en tout cas, donc vous avez un projet d'Akadosh Baruch Hu. Dieu veut que l'homme soit fait en collaboration. Lui va donner quelque chose, la nature va donner quelque chose, ça va donner l'homme. Et là, à nouveau, vous avez un nouvel échec. C'est-à-dire que Dieu dit Na'aseh Adam, nous allons faire l'homme. Et puis finalement, il ne l'a pas fait. On voit au verset 27, il écrit « Vayivra Elohim et Adam, Elohim créa l'homme ». Alors que le verbe employé dans le projet, c'était « la'asot », c'est-à-dire « faire ». Dans la réalisation, il n'y a eu que le verbe « bara » qui veut dire « créer ». La différence est très simple. Quand on parle de « la'asot », en hébreu, le verbe « asa » signifie non seulement « faire », il signifie « parfaire ». C'est quelque chose de parfait, d'entièrement fait. Tandis que le mot « bara » désigne un début, un commencement. Bon, chacun fait son travail, Dieu a donné sa partie. Ça ne peut, comme ce n'est qu'une moitié, ça ne peut être que « bara ». Mais la nature n'a pas réussi à compléter. Donc, l'homme a été créé le sixième jour, mais il est imparfait. Possible, mais en tout cas, c'est bien embêtant d'être imparfait. Enfin, je ne sais pas, vous savez, par exemple, quand on cherche dans les explications des scientifiques, comment se fait-il, par exemple, que l'homme soit sans fourrure ? C'est-à-dire, si l'homme est descendant d'un être qui ressemble au singe, et que les singes ont de la fourrure, et donc ils n'ont pas besoin d'acheter des vêtements, pourquoi est-ce que les hommes, eux, n'ont pas de fourrure ? Eh bien, l'explication qu'on donne chez les évolutionnistes, c'est que l'embryon du singe ressemble à l'embryon de l'homme, et que la fourrure apparaît dans les dernières phases de la grossesse. Et étant donné que l'évolution a fait que la boîte crânienne de l'homme a investi énormément d'énergie pour développer le cerveau, eh bien c'était au détriment des fonctions de la fin de la grossesse, ce qui fait que l'homme va naître sans avoir eu le temps d'avoir une fourrure. Donc on pourrait dire que l'homme est un singe débile, c'est-à-dire un singe qui n'a pas réussi sa plénitude naturelle. Donc il y a quelque chose d'incomplet dans l'homme, c'est un désavantage, un handicap, qui lui vient de sa grandeur. C'est-à-dire, le fait d'être trop intelligent fait que l'homme est incapable de se réchauffer tout seul. Donc il a besoin d'avoir des magasins de mode. Donc il y a ce sentiment que l'homme est incomplet. Et ce sentiment est encore plus fort chez l'être féminin que chez l'être masculin. Si une femme ouvre une armoire pleine de vêtements, qu'est-ce qu'elle dira ? C'est vous qui l'avez dit, hein. Bon, en tout cas, Et donc, il y a ce sentiment donc de nécessité d'achever l'homme. Or, l'homme est inachevé. Et c'est comme ça qu'il entre dans le septième jour. Très embêtant. On entre dans le septième jour et l'homme est inachevé. Maintenant, pour bien comprendre ce que nous allons maintenant élucider, c'est il y a dans le récit de chacun des sept jours de la création. Il y a grosso modo quatre phases. Les quatre phases sont, d'ailleurs vous avez une interro là-dessus à la fin de la conférence, donc il y a dans chacun des sept jours de la création, vous avez quatre phases qui sont le projet, la réalisation, le jugement et la récapitulation. La récapitulation, je vais vous donner un exemple. que la lumière soit, c'est un projet. Et la lumière fut, c'est une réalisation. Vayar Elohim et Taor Kitov, et Dieu vit que la lumière était bonne, et il a séparé la lumière des ténèbres, c'est le jugement. Le jugement avec les conséquences. Vayir Vayi Boker Mechad, il fut soir et fut matin un jour unique, et bien ça, c'est la récapitulation. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas clair ? Bon. Et donc, vous avez ces quatre phases se répètent grosso modo, je dis bien, dans tous les jours de la création. Et puis, si nous arrivons au sixième jour. Au sixième jour, alors nous avons vu qu'il y avait plein de projets. Le projet de créer l'homme, il y avait le projet de faire des tas de choses. Et puis finalement, il est dit, Vayar Elohim et kol asher asa vinetov meod. Et Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait était bien. C'est-à-dire tout ce qu'il avait réussi à faire, à parfaire, était bien. Ça n'inclut pas l'homme, évidemment, puisque l'homme n'a pas été achevé. Vayir et vayir boker et machichi, il fut soir, il fut matin, sixième jour. Et si vous regardez ce qui se passe à la fin de chacun des jours, la formule est toujours la même. Vayir et vayir boker yom echad, il fut soir, il fut matin, jour 1. À la fin du deuxième jour, vayir et vayir boker yom sheni, il fut soir, il fut matin, deuxième jour. Pour le troisième jour, la Torah dit, il fut soir, il fut matin, troisième jour. Pour le quatrième, la Torah dit, il fut soir, il fut matin, quatrième jour. N'est-ce pas ? Après, pour le cinquième, la Torah nous dit, il fut soir, il fut matin, cinquième jour. Pour le sixième jour, la Torah nous dit, il fut soir, il fut matin, jour le sixième, voyez, Yom HaShishi. Et puis, après, on arrive au septième. Et alors là, vous avez un texte que vous connaissez probablement, Vayichulu HaShamayim Va'aretz V'chol Tzevav. Le ciel et la terre furent parachevés avec toutes leurs armées. Vayar Elohim et kol asher asa. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Vayichal Elohim bayom hashvi'i melachto asher asa. Elohim a achevé lors du septième jour l'œuvre qu'il avait fait. Vayishbod bayom hashvi'i mikol melachto asher asa. Il cessa lors du septième jour tout l'ouvrage qu'il avait fait. Vayivarech Elohim et yom hashvi'i. Elohim sanctifia, bénit et sanctifia le septième jour. Kivo Shabbat Mikol Melarto Asher Bara, parce qu'en ce jour il avait cessé toute l'œuvre qu'il avait créée, la Asot pour faire, Vayi Aire, Vayi Boker Yom Hashvi, il fut soir, il fut matin, septième jour, n'est-ce pas? Oui, vous dites comme ça, alors que j'ai inventé un verset qui n'existe pas, ce qui est encore plus grave qu'inventer un Midrash. C'était le piège, évidemment. On n'a pas le droit d'inventer un midrash, mais encore plus fort, à forte raison, on n'a pas le droit d'inventer un verset qui n'existe pas. Or, le verset qui devrait exister, c'est Vayi Aire, Vayi Boker Yom HaShivi, il fut soir, il fut matin, septième jour. Et la Torah ne le dit pas. Non, non, ça ne veut pas que c'est bien. Elle ne dit pas qu'il y a eu un septième jour. On s'attendrait à ce qu'à la fin du septième jour, il fut soir, il fut matin, septième jour. C'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que la Torah nous a supprimé ça? À la place, on dit Savri Maranan. Non, ça non plus. En tout cas, en fait, et ça c'est Manitou qui l'expliquait, c'est un point fondamental dans l'enseignement. Oui, mais il n'y a pas écrit Vayere, Vayiboker, Yomachevi. Il n'y a pas écrit Vayere, Vayiboker, Yomachevi. Ça, c'est pas écrit. Donc, ça devrait être écrit. Si c'est pas écrit, et dire comme disait Roland Bacri, qu'est-ce que tu lui reproches à ce vin? Mektoub, c'était aigri. Et oui. Ça, c'était tout simplement pour faire tomber la tension intellectuelle du cours. Je reviens donc à Vayir et Vayir Boker et Machvi n'existe pas. Manitou enseigne, c'est un point très important et fondamental dans son enseignement, c'est que le septième jour n'est pas fini. C'est-à-dire que l'histoire humaine se situe dans le septième jour. Et ça, c'est très important parce que ça explique bien des choses. Parce que on se promène dans le monde et on nous raconte que le monde est créé. Moi, j'ai pas du tout l'impression. Quand je vois le monde, je vois que le monde est une donnée. Le monde est éternel, il a toujours été. Et on me dit qu'il est créé. Alors, la Torah nous explique, non, c'est parce que tu vis le septième jour. Or, dans le septième jour, Dieu cesse d'intervenir. On est donc dans une phase provisoire. Le septième jour, on est en attente d'achèvement du septième jour. Et quand ce sera achevé, eh bien, l'histoire de la création continuera. On rentrera dans le huitième jour. Mais qu'est-ce qui se passe pendant le septième jour? La Torah nous dit que le septième jour, Dieu a cessé tout ce qu'il avait fait, mais qu'il a également cessé tout ce qu'il avait créé. C'est quoi? C'est l'homme. Puisqu'on avait vu dans le chapitre précédent, au verset Kavav, que l'homme n'avait été que dans le verset Kavzaï, pardon, que l'homme n'avait été que créé, que l'homme a été donc inachevé. Donc il reste quelque chose à faire. Asher bara Elohim, la sot. Il y a quelque chose qu'il faut parfaire. Qui c'est qui doit parfaire? Ben, c'est l'homme qui doit se parfaire. C'est-à-dire le septième jour, c'est le cadre dans lequel l'homme va devoir achever le travail de la création. C'est très simple. Et en fait, si vous réfléchissez bien jusqu'au bout, ça vous donne... il faut voir quel est le projet du septième jour, puisque nous avons vu que dans chacun des jours, il y a un projet, une réalisation et un jugement. Donc il faut savoir quel est le projet du septième jour, quelle est la réalisation et quel est le jugement. Eh bien, le projet, il est écrit en toutes lettres. Vaivarech Elohim et Yom HaShviʼi vaikadesh oto. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. C'est la première fois qu'apparaît le mot kadosh, le mot de sainteté dont on a tellement parlé tout à l'heure, et un des intervenants, un homme du public a voulu intervenir. Le mot kedusha, sainteté, qui est un mot qui n'est pas très clair. La Torah n'explique pas ce que ça veut dire. Kedusha, mais il semblerait que la Kedusha serait donc la finalité du septième jour. C'est quoi cette Kedusha? Sans rentrer dans la définition de la Kedusha, on peut voir qu'il y a un texte de la Torah qui nous parle de la Kedusha comme étant la finalité de l'ensemble des mitzvot. C'est le verset dans le livre de Vayikra, Kedoshim Tihiyu. Il faut que vous soyez saints. Et pourquoi est-ce qu'il faut que vous soyez saints? La Torah continue, elle nous dit « Ki kadosh ani » car moi je suis saint. Ah bon, et alors? Parce que Dieu est saint, moi je dois être saint? Qu'est-ce que ça veut dire? Si moi j'ai les yeux bleus, alors tu dois avoir les yeux bleus. Si j'ai... je sais pas. Enfin, pourquoi est-ce que si Dieu est saint, il demande à nous d'être saints? Hein? On est à son image. Dans ce cas-là, on est déjà saint. Mais en fait, c'est très simple. Dieu dit, je suis le seul à être saint. Je me sens un peu seul, je cherche quelqu'un avec qui dialoguer. C'est-à-dire, si vous devenez saint, on pourra jouer ensemble. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que la sainteté de la création, c'est pour permettre une rencontre entre le créateur et sa créature. C'est-à-dire, tant qu'il y a un créateur et une créature, on est dans un monde de dichotomie. Alors, le bon Dieu, lui, il est tout seul dans sa plénitude. Le monde est seul dans sa créature. Et il n'y a pas de rencontre. Et le bon Dieu, il est intéressé à ce qu'il y ait une rencontre. Donc il lui dit, soyez saints. Si ça marche un jour, il y aura écrit dans la Torah, Vayiyu kedoshim, et ils furent saints. Vayar Elohim kitov, et Dieu a vu que c'était bien. Vayiyere vayiboker yom hashviʼi, il fut soir et fut matin septième jour, et alors pourra commencer le huitième. C'est-à-dire que il y a un projet de sainteté, et cette sainteté, sans rentrer dans la définition exacte de la sainteté, mais elle implique une relation directe entre la créature et le créateur. Et de là découlent toutes les divergences d'opinion autour du mot kadosh exactement. Est-ce que ça veut dire une séparation? Est-ce que ça veut dire une vitalité? Est-ce que ça veut dire unité des valeurs? En fait, tout cela se recoupe de différentes manières, mais ça demanderait une étude en soi. Vous savez qu'un des derniers projets de Manitou dans sa vie, c'était de faire un séminaire à Paris sur le thème de la sainteté. Et que dans la dernière semaine de sa vie, on était un petit groupe d'élèves, il préparait avec nous les textes dont il était question pour préparer ce séminaire. Alors peut-être qu'un jour il faudra réaliser le projet de Manitou et faire un séminaire sur la sainteté. En tout cas,
hein, l'idée qui n'est pas perdue pour tout le monde.
Ah oui, bien sûr. Oui. Il y a simplement un tout petit problème, c'est que cette histoire du huitième jour que je vous raconte là, que viendra un jour où le septième jour sera achevé et puis on rentrera dans le huitième jour, c'est qu'il y a un texte de la Torah qui dit le contraire de ce que je viens de vous dire. La Torah nous raconte dans le livre de Vayikra au chapitre 9 que le huitième jour a commencé quand elle dit Vayihi Bayom Hashemini et ce fut le huitième jour. C'est écrit en toutes lettres Vayihi Bayom Hashemini et ce fut le huitième jour. C'était quoi le huitième jour en question? Eh bien, c'était le jour de l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire dans le désert. C'était la première fois que la rencontre entre les hommes et Dieu est devenue possible de manière permanente. Il y a une institution, le Beth Amikdash, et c'était donc le huitième jour. Et oui. Oui, bien sûr. Donc il y a un problème. C'est que d'une part il y a le Kodesh et le Chol, et de l'autre côté vous avez le Beth Amikdash. En fait, la Torah nous raconte que le huitième jour a commencé, mais ne nous dit pas que le septième jour est fini. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a les deux réalités à la fois. Vous avez le septième jour dans l'histoire et le huitième jour dans le Beth Amikdash, dans le temple. C'est-à-dire que le temple est un lieu extraterritorial. C'est un morceau de huitième jour en plein septième jour. C'est-à-dire que si vous voulez savoir de quoi a l'air le huitième jour, ben vous n'avez qu'à rentrer dans le temple. Et là, vous trouvez le huitième jour. C'est pour ça qu'on ne fait pas le Shabbat, par exemple, dans le Beth Amikdash. Mais alors là, si c'est vrai, ça veut donc dire que le huitième jour, ce Beth Amikdash, c'est un corps étranger dans notre monde. Qu'est-ce qui arrive à un corps étranger ? Eh bien, il est rejeté, ce qui vous explique pourquoi le temple est détruit de temps en temps. C'est-à-dire que la nature n'accepte pas la présence du huitième jour, et donc de temps en temps, c'est éjecté. Jusqu'au temps où il y aura réconciliation entre le huitième jour et le septième jour. Il y a eu un peuple d'Europe qui a eu cette intuition il y a un peu plus de deux siècles, lorsqu'ils ont, dans une assemblée nationale, ils ont décidé qu'il fallait instituer un culte de l'être suprême. Et ils ont dit, ils ont déclaré, je crois que c'était des Français, ils ont déclaré que l'être suprême existe, c'est important, c'est-à-dire Dieu avait besoin d'une légalisation de son existence par l'Assemblée nationale, et une fois qu'il a reçu la légitimité d'exister, alors ils ont rajouté également que ses attributs sont la vertu et la vérité, et son temple, son sanctuaire, c'est le monde. Et c'est pour ça qu'ils sont passés de la semaine à la décade. Il y a eu un moment comme ça d'illumination, un peu sanguinaire d'ailleurs, mais enfin, un peu beaucoup. Et en tout cas, il y a eu cette intuition qu'il pouvait avoir un état du monde qui serait identique au huitième jour. Bon, ils ont complètement raté la flèche, mais en tout cas, il y avait cette idée-là. Et donc, il y a déjà un huitième jour qui s'annonce et qui arrive lorsque l'homme a enfin réalisé son idéal de sainteté, qui se traduit entre autres à travers la nation d'Israël dans son Beth Amikdash. Maintenant, cela a des conséquences au niveau, si vous voulez, de ce que l'on peut attendre de l'homme et du monde. Il y a à ce propos une ambiguïté terrible dans le monde actuel. Dans le monde actuel, il y a une rivalité de civilisation, un affrontement terrible, un choc de civilisation entre l'Occident et l'Islam, et qui est absolument insoluble parce que c'est un choc de valeurs. L'affrontement est moral. L'Occident a hérité de la tradition philosophique grecque que c'était l'homme qui est la mesure de toute chose. Ce qu'on appelle de l'anthropocentrisme. L'homme est au centre du monde. Et Dieu, alors, dans tout ça, il est dans la périphérie. S'il existe, il est dans la périphérie de l'homme. Ça se traduit, entre autres, au niveau politique, par l'idéal démocratique qui exalte la centralité de l'homme. Et puis, il y a une autre civilisation qui dit exactement le contraire. C'est la civilisation islamique qui, elle, affirme que c'est Dieu qui est au centre du monde et que l'homme est dans la périphérie si même il existe, parce que l'homme, d'après l'islam sunnite en tout cas, n'a pas le libre arbitre, il n'y a pas véritablement l'existence de l'homme, l'homme doit être soumis, ce que signifie d'ailleurs le mot islam. C'est-à-dire, l'homme doit être soumis à la toute-puissance du Créateur, c'est un peu ce que signifie d'ailleurs l'expression Allahu Akbar, qui veut dire Dieu est le plus grand, c'est-à-dire le plus fort, c'est le plus fort, c'est un peu macho comme ça. Et cet affrontement. Et il y a ici donc un dialogue de sourds parce que l'Occident était persuadé que toute société veut devenir démocratique, y compris la société musulmane. Ils n'ont pas compris que, tiens, comme par hasard, eh bien, ça marche pas. Ça marche pas. Il y a un présupposé, antique déjà en Europe depuis trois siècles à peu près, que tout mouvement religieux qui rentre dans la politique se sécularise, et puis brusquement on voit que le mouvement religieux dans l'islam rentre dans la politique et ne se sécularise pas du tout. Et ça crée un désespoir aussi bien dans une ère de civilisation que dans l'autre, dans l'islam que dans l'Occident. La solution peut se trouver, la réconciliation universelle est possible à travers Israël. Parce que l'enseignement d'Israël, l'enseignement de la Torah, tel que nous le voyons ici dans ces notes de Manitou, eh bien, c'est que ni Dieu n'est au centre, ni l'homme n'est au centre. Mais c'est le dialogue, la rencontre entre l'homme et le Créateur qui est le but véritable. D'ailleurs, je glisse d'ailleurs directement vers des considérations noachidiennes. Quand je rencontre, ça m'arrive, hein, vous savez, de rencontrer des goïms. J'en connais pas mal. J'ai vu que vous en avez beaucoup en France. Et quand des goyim me demandent, mais enfin, vous, les juifs, qu'est-ce que vous nous amenez, qu'est-ce que vous donnez au monde, ben, j'explique que le monde a l'air d'une maison qui a un toit. Le toit est très important parce que le toit protège. Sans toit, eh bien, il y a la pluie, il y a le soleil. On a besoin d'un toit. Mais on a quand même besoin d'une voie d'aération, une cheminée. Eh bien, les responsables de la cheminée du monde, c'est nous, les enfants d'Israël. Nous sommes un peu donc des rabonneurs, c'est pour ça que nous sommes un peu noirs. Et c'est-à-dire, les rabonneurs du cosmos, eh bien, ce sont les enfants d'Israël qui viennent proposer un espace de rencontre entre l'homme et Dieu, et ce qui peut éventuellement réconcilier la civilisation humaine. Voilà, je pense que c'est suffisant pour l'instant, à moins que vous ayez des remarques.